France Culture.
D'abord, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Sébastien Lecornu continue à jouer contre la montre chargée par Emmanuel Macron de trouver une issue à la crise avant ce soir. Le Premier ministre démissionnaire mène en ce moment même d'ultime pourparlers. Selon lui, les formations consultées jusqu'à présent manifesteraient une volonté de doter le pays d'un budget avant la fin de l'année, ce qui éloignerait la perspective d'une dissolution de l'Assemblée. On tâchera de comprendre selon quelle mécanique et puis on verra si l'hypothèse formulée hier soir d'une éventuelle suspension de la réforme des retraites permettrait de dégager ou non un compromis. Puis on se rendra également au procès en appel des viols de Mazan. Nous serons en direct de la cour avec notre invité. À mesure que les jours passent et à quelques heures seulement donc de la fin du sursis accordé par le chef de l'État au Premier ministre démissionnaire, qu'il semble loin le nouveau monde promis par Emmanuel Macron, tout plaide au contraire pour la fin d'une époque baptisée le macronisme et dont le laboratoire visiblement en ruine est même déserté par tous les alchimistes autrefois fidèles au président d'Édouard Philippe à Gabriel Attal, aujourd'hui incapables de trouver la formule magique pour sortir de ce cauchemar. Alors hier soir et contre toute attente, Elisabeth Borne a bien tenté malgré tout de sortir du chapeau une éventuelle suspension de sa très décriée réforme des retraites qu'elle avait pourtant elle-même, on s'en souvient, défendu bec et ongle, une sorte de retrait tactique en somme pour éviter la débâcle dès lors qu'en effet la manœuvre pourrait éventuellement permettre d'arracher un accord avec les socialistes. On va y revenir dans un instant. Et puis parce qu'à chaque jour suffit donc sa péripétie, en bon lieutenant cette fois-ci du président Sébastien Lecornu a pris la parole ce matin lors d'un point presse de méthode surprise pour faire apparaître une lueur au bout du couloir en annonçant que les différents partis seraient finalement un peu plus ouverts aux négociations. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour Thomas.
Selon le Premier ministre démissionnaire, la perspective d'une dissolution que tout le monde pressentait comme inéluctable serait à présent en train de s'éloigner.
En tout cas, à la mi-temps du délai fixé par le président, Sébastien Lecornu veut croire que tout n'est pas perdu. Au moment où il parle, les socialistes ne sont pas encore à Matignon, mais tout ce qu'il a vu avant, Bloc Central, LR, Place Publique et quelques autres, ont envie d'y arriver.
Il y a une volonté d'avoir pour la France un budget avant le 31 décembre de cette année. Et cette volonté crée un mouvement et une convergence, évidemment, qui éloigne les perspectives de dissolution. Enfin, ça ne suffit pas. Il faut évidemment que ce budget comporte un certain nombre de paramètres qui permettent à la France d'avancer.
Le Premier ministre démissionnaire tente de cadrer les choses. Il remet sur la table l'impératif de réduction du déficit, un peu plus souple, ceci dit, que les 4,7% envisagés jusqu'ici.
La cible de déficit public doit être tenue en dessous de 5%.
Volonté partagée, impératif reposé. Donc, ce qu'il dit entre les lignes, sans jamais parler de la suspension de la réforme des retraites, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et que chacun doit maintenant faire un pas. Message envoyé aux forces socialistes, communistes et écologistes.
Quelles sont les concessions qu'elles demandent aux autres formations politiques pour garantir cette stabilité? Quelles sont les concessions qu'elles sont prêtes à faire aussi, le cas échéant, pour le permettre? Car j'ai cru comprendre qu'elles aussi souhaitaient que la France puisse se doter d'un budget avant la fin de cette année. Et donc on le voit bien, de ce moment de difficulté, de crise, crée aussi un moment de responsabilité sur lequel j'espère pouvoir trouver un certain nombre de solutions pour les présenter ce soir au chef de l'État.
Le compte à rebours est lancé et le suspense sera levé dans un peu moins de 8 heures maintenant. Sébastien Lecornu sera ce soir sur France 2 dans le journal de 20h.
Merci Rosalie Lafarge. Alors au dernier jour fixé par le président, on l'a dit, pour trouver une issue à la crise, dans ce paysage politique totalement éclaté, Sébastien Lecornu reçoit depuis ce matin les dirigeants de l'opposition, en l'occurrence les socialistes ont ouvert le bal avant les communistes, puis les écologistes, étant entendu par ailleurs que les insoumis comme les représentants du Rassemblement National ont préféré eux décliner l'invitation. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
On l'a dit, la suspension de la réforme des retraites est revenue depuis hier soir au centre des débats. Est-ce que ce seul marqueur suffirait au camp présidentiel à obtenir un sauf-conduit de nature à éviter une énième censure au Parlement? Pour commencer, je vous propose qu'on écoute la déclaration d'Olivier Faure à la sortie de Matignon.
Nous n'avons aucune assurance sur la réalité de cette suspension. Elle a été évoquée par la seule ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, mais personne à ce stade ne nous garantit le fait que ce serait le cas. La réalité, c'est que cette histoire peut être un leurre complet et nous allons continuer à nous battre pour que toute garantie soit apportée. Et la meilleure garantie à tout cela, c'est que la gauche et les écologistes soient appelés au pouvoir. Le projet de budget tel qu'il est présenté aujourd'hui ne peut pas être le nôtre. D'ailleurs, je veux couper court à ce stade à toutes les élucubrations d'un gouvernement commun avec la Macronie. C'est inimaginable.
Alors on a compris. montrer que le PS restait encore sceptique quant à la réalité de cette suspension de la réforme. Et pour compliquer un peu plus encore les choses, Stéphane, le président des Républicains Bruno Retailleau a lui déjà fait ce matin de cette suspension donc une ligne rouge.
Et il n'y a pas que Bruno Retailleau pour son parti Les Républicains. Horizon, le parti d'Édouard Philippe, indique également qu'il n'est pas question de suspendre la réforme des retraites. Et même au sein du parti Renaissance, le parti historique du président, cette proposition d'Elisabeth Borne ne fait pas l'unanimité, ainsi que l'a énoncé la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ce matin sur la radio RTL.
Moi, ça me gêne un peu. Il faut pas lâcher des trucs comme ça, quelque chose tous les jours. Il ne s'agit pas de renoncer aux grandes réformes que nous avons faites. Je rappelle quand même qu'en ce moment, nous sommes le pays européen où l'âge de la retraite est le plus bas. Et certains pays européens sont dans une pleine réflexion pour augmenter l'âge de la retraite.
On a besoin de clarté.
Je vais être très clair.
Pour ou contre la suspension de la réforme des retraites? Pour ou contre?
Moi, ça me gêne. Et je considère que si on devait aller dans cette direction, c'est dans le cadre d'un deal global.
La présidente de l'Assemblée nationale s'est en réalité fait l'écho des nombreux doutes qui se sont exprimés hier soir sur les boucles de messagerie des députés Renaissance. Certains se disaient sidérés par la proposition d'Elisabeth Borne, d'autres s'indignaient du fait que personne n'a été mis au courant de la sortie dans la presse de l'ex-première ministre. D'autres encore expliquaient qu'ils n'imaginent pas une seconde laisser détricoter une réforme qu'ils ont votée il y a 2 ans. Il y avait aussi bien sûr des voix qui saluaient la proposition, indiquant que c'était selon eux le seul moyen de débloquer la situation et d'éviter une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Mais on semble assez loin d'un avis majoritaire au sein du groupe, ce qui laisse penser que l'exécutif n'est à ce stade pas en mesure de nouer un accord susceptible d'éviter la censure à un futur nouveau gouvernement.
Merci Stéphane Robert. Et je précise que ce matin, Marine Le Pen a quant à elle estimé que l'hypothèse d'une suspension de la réforme des retraites allait dans le bon sens, avant toutefois de préciser qu'en cas de non-dissolution du Parlement, son parti censurerait tout ce qui émane du gouvernement. Alors de toute cette séquence, il ressort surtout en réalité qu'il est aujourd'hui compliqué de se repérer sur l'échiquier politique, tant les alliances semblent parfois mouvantes, sans parler des contradictions au sein des mêmes d'un seul et même parti. Lui, en revanche, a choisi de clarifier les choses. Lui, c'est Bruno Retailleau. Nicolas Balu, bonjour.
Bonjour.
L'occasion d'une législative partielle qui se tiendra donc dimanche dans le Tarn-et-Garonne, et tandis que son candidat a été éliminé dès le premier tour, le président du parti Les Républicains appelle désormais à ne pas voter pour la candidate socialiste qui fait face à celui de l'UDR soutenu par le RN, un choix totalement assumé.
Oui, pas une voix à la gauche. On est loin du ni-ni, ni PS ni FN de Nicolas Sarkozy. On n'en est plus vraiment à tout sauf LFI. La consigne, d'ailleurs, semble avoir jeté un certain trouble dans le camp de Bruno Retailleau dans la deuxième circonscription du Tarn et Garonne. Les Républicains semblent dans un entre-deux, mais les déclarations qui soulèvent la question d'un rapprochement, d'une entente, ne semblent plus déclencher des hauts cris dans le parti. Dernier exemple, hier soir, l'ancienne porte-parole du gouvernement Bayrou, la LR, Sophie Primas, s'est prononcée sur RTL à titre personnel, disait-elle, pour un tel rapprochement.
La question que nous posons à chaque fois, c'est pourquoi faire ? Comment nous passons ensemble à l'Assemblée nationale les quelques mois qui nous séparent de l'élection présidentielle ? S'il y a un contrat de gouvernement avec des idées et des mesures qui ne sont pas orthogonales à nos convictions, eh bien, travaillons ensemble.
Voilà, contrat de gouvernement, travaillons ensemble, ce sont les mêmes mots que ceux utilisés par le président du RN, Jordan Bardella, hier matin, lorsqu'il disait « tendre la main aux Républicains » en cas de victoire du RN à des législatives anticipées. Alors ce matin, marche arrière de Sophie Primas qui précise « Je suis opposé à l'union des droites, je n'ai pas changé d'opinion ». Hier soir, Bruno Retailleau a refusé cette éventualité du « Travaillons ensemble » de Jordan Bardella pour des raisons économiques et de personnes. Clarification toujours en cours.
Merci Nicolas Balu.
La date était inscrite à l'agenda depuis bien longtemps déjà, mais on l'avait presque oublié.
Oui, balayé en l'occurrence par le séisme de l'incarcération prochaine de Nicolas Sarkozy. C'est aujourd'hui en effet que la Cour de cassation devait examiner le pourvoi de l'ex-président contre sa condamnation dans l'affaire dite Big Malion, celle sur le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Un ultime recours judiciaire donc pour espérer échapper à une deuxième condamnation pénale définitive après celle de l'affaire dite suite des écoutes. La Cour rendra sa décision le 26 novembre. Et puis Nicolas Sarkozy aura droit prochainement à un autre rendez-vous crucial, là encore avec la justice. Ce sera lundi prochain. Le parquet national financier lui fera part des modalités de sa future incarcération après sa condamnation en première instance dans le procès libyen. Le tout dans l'attente d'un nouveau procès auquel ouvre droit son appel du jugement qu'il a déclaré coupable d'association de malfaiteurs. On parlait tout à l'heure du ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, lequel avait promis au printemps dernier de nouvelles mesures pour améliorer la filière investigation de la police, une promesse restée pour l'instant à l'état de déclaration. D'où l'appel lancé par l'un des principaux syndicats de police, Unité FO, pour des actions de sensibilisation menées aujourd'hui dans une cinquantaine de villes. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
On estime actuellement à plus de 3 millions le nombre de procédures judiciaires en attente de traitement, raison pour laquelle le syndicat estime qu'il ne peut plus attendre le calendrier politique pour mettre en lumière ce sujet crucial, selon lui, pour l'avenir non seulement de la police, mais aussi des Français.
Oui, le sujet est ancien. En 2022, déjà, on recensait 2 700 000 procédures en souffrance, alors que 3 500 000 nouveaux dossiers étaient enregistrés. Les Français déposent de plus en plus plaintes, encouragées par les autorités, plaintes qui, depuis un an, peuvent également se faire en ligne, en quelques clics. Mais derrière, les moyens ne suivent pas. Selon Grégory Joron, le secrétaire général d'Unité, il manque actuellement entre 2 000 et 2 500 enquêteurs. Ceux qui sont en poste croulent sous les dossiers.
Quand vous allez par exemple à Roubaix, vous allez rentrer dans un bureau de traitement judiciaire, vous allez voir des piles de dossiers qui datent de 2016, qui n'ont pas été traités. Donc on est en mode dégradé, nous les policiers, la justice également. Et en fait, au bout de ça, il y a deux choses qui se passent. Les victimes qui sont encore une fois maltraitées, et puis il ne faut pas oublier aussi les auteurs. Parce que derrière chaque dossier, il y a en général une victime et un auteur. À la victime, on l'abandonne, et l'auteur, il reste impuni.
À la préfecture de police de Paris, mais aussi en région, de nombreux services d'enquête ont lancé des alertes concernant les risques psychosociaux. Jusqu'à présent, les solutions mises en place, que ce soit la réforme récente de la police nationale avec la départementalisation des filières, ou encore l'obligation pour les étudiants à l'académie de police de sortir en ayant passé l'examen d'officier de police judiciaire, n'ont pas réglé le problème. Les jeunes policiers, sauf exception, ne veulent pas aller dans cette filière investigation, poursuit Grégory Joron.
Parce que quand vous avez 20 ans, 22 ans et que vous rentrez dans la police, vous voulez arrêter des voleurs. Vous voulez pas prendre des plaintes et faire des enquêtes. C'est difficile, mais c'est une réalité. Donc on les force à y aller en sortie d'école. Et en général, au bout d'un an, ils veulent tous repartir pour essayer d'aller sur le terrain.
Il faut dire aussi que le régime indemnitaire et les cycles horaires sont aujourd'hui plus avantageux en voie publique plutôt qu'en investigation.
Merci Anne Fauquemberg. Après avoir été confronté, c'était hier, au grand ordonnateur des supplices infligés à Gisèle Pellico, Hussam Ettin, dès le seul des 51 violeurs jugés en première instance à avoir fait appel de sa condamnation, aura eu ce matin à soutenir cette fois-ci le regard de sa victime, appelée à nouveau à témoigner face à face à l'intensité encore renforcée par la diffusion de vidéos accablantes sur le martyre qu'elle a eu à subir. Alors après l'audition de celle qui a été propulsée au rang d'icône féministe, les plaidoiries de ses avocats devraient débuter cet après-midi, suivi du réquisitoire de l'avocat général. Rappelons qu'en première instance, 12 ans de prison avaient été requis contre l'accusé. Viendront ensuite les plaidoiries de la défense en fin de journée, ou plus probablement d'ailleurs demain, jour attendu pour le verdict. Et pour en parler avec nous, invité à présent de la rédaction, Valérie Manteau, autrice, prix Renaudot en 2018 et dont le dernier récit portant sur le procès en première instance intitulé Entre chien et loup, apparu chez Stock la semaine dernière. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous avez assisté donc ce matin à l'audition de Gisèle Pellico, entendue par la Cour pour la première fois depuis le début du procès. En s'adressant directement à l'accusé, elle a réaffirmé ne jamais lui avoir donné son consentement. Qu'est-ce que vous retenez de la déclaration ce matin donc de Gisèle Pellico ?
Et bien sûr, elle a redit effectivement qu'elle avait évidemment jamais donné son consentement, ce qu'on a de toute manière pu voir dès 9h ce matin, puisqu'on a subi l'intégralité des vidéos qui avaient été filmées quand Monsieur Hussam Ettin était sur place, et dans lequel on voit à l'évidence qu'elle est complètement inconsciente. Ce qui m'a frappé encore ce matin, malheureusement, c'est pas tellement ce que elle avait à dire spontanément, qui était d'une très grande justesse et d'une très grande force, mais c'est l'interrogatoire extrêmement long et assez harcelant, je dois dire, que lui ont fait subir les avocats de la défense. J'ai l'impression qu'on rejoue encore le pire de ce qu'on avait vécu en première instance, de cette violence de la justice vis-à-vis des victimes. Donc là, elle a subi, je sais pas, peut-être 10, 15 questions extrêmement culpabilisantes, visant à lui faire dire pourquoi, comment elle avait pu vivre 50 ans avec son mari. pourquoi elle ne s'était pas rendue compte qu'il la droguait, pourquoi elle ne s'était pas rendue compte de ceci, de cela. C'était vraiment assez insupportable, assez humiliant, elle l'a redit. Et là, on vient de quitter l'audience sur un rapport d'incident déposé par les avocats de Gisèle Pellicot, puisqu'ils, les avocats de la défense, souhaitent à nouveau diffuser des photos et des images d'elle, semble-t-il, consciente, consentie avec son mari, voire des images qui n'ont rien à voir, qui avaient également été diffusées en première instance et qui serviraient d'excuse pour dire en gros qu'elle l'avait bien cherché. Enfin, je veux dire, l'accusée ce matin, Hussam Ettin, a redit que, en gros, elle n'avait qu'à pas se mettre en scène avec son mari, que c'est ces images consenties qu'elle aurait tournées, qu'elle conteste hein, par ailleurs, qui auraient servi d'appât pour que lui vienne au domicile. Et donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement pervers, encore une fois, extrêmement violent.
Et comment comprenez-vous justement le déni persistant de l'accusé ? Est-ce qu'il faut y voir une forme d'absence d'introspection chez cet homme qui absence d'introspection qui était commune d'ailleurs à tous les prévenus déjà en première instance ?
Alors pas tous, heureusement, mais c'est vrai une grande partie, et c'est un des points communs quand on réfléchit à cette affaire. Ce qui est très intéressant, c'est évidemment dans la masse des accusés d'avoir l'impression d'avoir une sorte de d'échantillon critique. Et effectivement, ils ont comme point commun, outre d'être des hommes, d'avoir peu de capacité d'introspection. Et celui-ci en particulier, il faut bien le dire, est empêtré dans un déni complètement jusqu'au boutiste. Il ne peut pas dire qu'il est un violeur, il ne reconnaîtra jamais les faits, il se considère lui-même comme une victime. Il va jusqu'à dire que lui-même s'est senti violé quand on l'a forcé à regarder les images de ses actes. Donc on est vraiment là dans un cas quasiment limite du pire de ce qu'on avait vu en première instance.
Ce procès en appel comporte évidemment d'importantes différences avec la première instance. D'un côté de la barre, donc Hussam Ettin Dey est le seul accusé de ce procès cette fois-ci. Et puis de l'autre, le jury populaire de la cour d'appel remplace les 5 magistrats professionnels de la cour criminelle qui siégeaient il y a un an. Est-ce que ce second procès vous permet d'observer des choses que vous n'aviez pas aperçues lors du premier ?
Moi, j'étais très très curieuse de voir ce procès effectivement en appel, et d'autant plus intéressée qu'il se passe avec un seul accusé qui fait appel. On est quasiment dans l'inverse de l'expérience qu'on a faite l'année dernière à Avignon, où on avait un procès complètement hors norme avec 50 accusés et effectivement une cour criminelle avec des magistrats professionnels. Là, on est dans un procès pour viol quasiment normal, si je peux dire, c'est-à-dire un seul accusé, une cour d'assises, des jurés populaires qui siègent. Et en même temps, c'est assez décevant de ce point de vue-là, parce que je trouve que la journée d'hier, en fait, les experts qui s'expriment en prenant comme référence non seulement l'accusé qu'on a sous les yeux, mais aussi des échantillons, des déclarations des 50 autres. Ce qui brouille en fait complètement le cas qu'on essaye de penser, c'est-à-dire comment un homme seul, enfin là en l'occurrence en réunion avec Dominique Pellicot, mais ils n'ont pas agi à 50, ils ont agi deux par deux à chaque fois. Et c'est cette dimension un petit peu plus réduite de l'affaire, un petit peu voilà, qui la rend plus banale, que je pensais qu'on arriverait mieux à penser là à l'occasion de ce procès avec simplement un accusé. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Et il faut bien dire qu'on s'intéresse très peu pour l'instant à l'accusé en tant que tel.
C'est bien noté. Merci Valérie Manteau. Je rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage intitulé « Entre chien et loup » paru la semaine dernière chez Stock. Merci également à Louise Guérin pour la préparation ainsi que à Laurent Macchietti pour les moyens techniques.
Midi passé de 48 minutes sur France Culture. La suite de votre journal, Thomas Cluzel.
2 ans après les horreurs innommables du 7 octobre et 2 ans aussi après le début d'une bataille vengeresse et sanglante menée par l'État hébreu. À quand le jour d'après celui qui ne fera pas que creuser davantage cet abîme monstrueux entre Israéliens et Palestiniens? Pour l'heure, le vacarme de la guerre résonne toujours plus fort que les discussions indirectes à l'œuvre en Égypte. Discussions toujours infructueuses. D'ailleurs, aujourd'hui même, de hauts responsables américains, qatariens et turcs doivent rencontrer les représentants des deux belligérants. Sauf que les écueils à franchir pour espérer non pas réconcilier les deux camps, mais imaginer ensemble les prémices d'une paix durable demeurent béants, qu'il s'agisse du désarmement du Hamas, du retrait des forces israéliennes comme de la future gouvernance de Gaza. S'il reste encore aujourd'hui officiellement la première force d'opposition au Royaume-Uni, le Parti conservateur n'est surtout plus que l'ombre de lui-même, menacé par la montée en puissance du Parti nationaliste Reform UK, et c'est donc en pleine crise existentielle que la dirigeante Kemi Badenoch devra tenter de montrer tout à l'heure devant ses partisans réunis en congrès annuel qu'elle peut encore redresser la barre. Gageons qu'elle ne manquera pas pour cela d'user de son franc-parler habituel et notamment pour réclamer ce qu'elle appelle de ses voeux un retour au vrai conservatisme dans une stratégie assumée de la surenchère toujours plus à droite. Enfin, on vient de l'apprendre après l'enlèvement donc hier dans l'Orne de la petite fille de 3 ans. Celle-ci a été retrouvée saine et sauve et son père interpellé. C'était en Bretagne. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec du soleil malgré quelques passages nuageux toujours possibles du sud-ouest au nord. Quant aux températures, elles sont comprises entre 16 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.